Taxi. Bonjour mesdames et messieurs. En 2010, un correcteur français anonyme sortait un livre remarquable sous le titre superbe « Mémoire de la maison des mots ». Après avoir expliqué qu'il avait travaillé en tant que correcteur pour Galli Grasseuil, c'est-à-dire Gallimard, Grasset et Le Seuil, sans, je cite, « sans avoir lu pendant toutes ces années un seul livre réellement passionnant, il étale un panorama terrifiant des bévues banales et des erreurs de goût qui fourmillent, selon lui, dans la littérature actuelle. Il dresse à la fois le portrait pitoyable du correcteur, qui essaie sans succès d'améliorer les textes qui lui sont confiés, en dépit des auteurs et des éditeurs, dont la totale incompétence et inculture a conduit à ce qu'il décrit comme une catastrophe culturelle. Le correcteur, c'est un type basacien, c'est l'arbin obscur, cette figure palote, cet exécutant servile et irritable, ce contrôleur infini sans aucune fantaisie, ce personnage haussé repoussant qu'on voudrait cacher, avec lequel on évite d'être vu. Quand même, il reconnaît que nombre des auteurs savent apprécier un fait essentiel. Le correcteur peut éviter à tel auteur d'être la risée de tout. Et il raconte une histoire assez plus agréable. J'ai connu un auteur qui, après qu'il ait écrit un livre traitant de Benjamin Constant, et que je corrigeais, voulait absolument que je corrige tous ses ouvrages. Il est vrai que son texte Constant était entaché de belles bourdes que je lui fis remarquer, mais il m'envoyait régulièrement ses livres gentiment dédicacés. Il me remerciait avec trop de cérémonie par téléphone. Il me disait bonjour quand il me croisait dans les couloirs. Il me félicitait pour mes textes. Et il continue. J'ai entendu parler, sans mettre en douce et bruite, de correcteurs qui ont été invités à déjeuner par des auteurs prodigues. On se rappelle le cas célèbre de Maxwell Perkins, le lecteur-correcteur qui réduisait les milliers de pages écrites ou composées, griffées par Thomas Wolfe, en des vrais romans, sans nuire à leur amitié, et pas mal d'autres. Est-ce qu'il y avait à la Renaissance des cas plus ou moins semblables, des correcteurs qui pouvaient vraiment améliorer des textes avant leur impression, ou des auteurs qui savaient apprécier la valeur de la contribution des correcteurs? Nous commençons en plein XVe siècle, au seuil de l'âge de l'imprimerie. Les humanistes, les philologues, les écrivains néo-latins ont chacun leur spécialité. Et quelques-uns, tels Niccolo Niccoli, font la toilette des œuvres de leurs collègues en essayant d'en chasser toutes les fautes de grammaire et de style. Le travail qu'ils effectuent ressemble aux activités des correcteurs d'imprimerie et il y en a quelques-uns qui deviennent, à travers le temps, des correcteurs d'imprimerie et ont commencé en tant que correcteurs des manuscrits. Nous examinerons le cas de Gian Antonio Campano, et c'est Campano sur l'écran, qui éditait Tite Livre et d'autres auteurs anciens pour un imprimeur viennois qui s'est installé à Rome, Ulrich Hahn. Pendant les années qui précédaient l'introduction de l'imprimerie à Rome, Campano faisait carrière comme un correcteur au sens traditionnel du terme, au sens Niccolo Niccoli. Des latinistes aspirants demandaient ses avis et commentaires à propos de leurs textes, un peu comme autant de dandies du XIXe siècle qui espéraient qu'un Beau Brummel approuverait de leur cravate. Michele Ferno, le biographe de Campano, rapporte que tout le monde lui apportait leur nouvelle création comme s'il était un censeur public et un suprême oracle. Aucun savant n'aurait osé à ce moment-là de publier quoi que ce soit avant d'avoir demandé son jugement critique. Chacun qui obtenait un éloge de Campano pensait que son œuvre avait été couronnée de gloire. En tant qu'écrivain, Campano est expérimenté et réussi, C'est le premier humaniste dont les lettres et les autres opuscules sont recueillis pour la publication sous forme imprimée dans un volume, déjà en 1495. Il connaît le processus de la correction du côté de l'auteur ainsi que de celui du correcteur. Lorsque l'humaniste Jacopo Ammanati Piccolomini lit l'horizon funèbre de Campano sous le pape Pius II, il trouve des erreurs graves de fait et de révélation. Comme il écrit à Gero Lolli, qui avait entendu le discours et l'avait critiqué assez sévèrement, « J'ai convoqué Campano à moi et je lui ai montré, un par un, les passages répréhensibles que vous aviez fait remarquer et que j'ai trouvés. Il m'a écouté patiemment et me chargé de la correction de son discours, et il a abrégé, changé, élargi le texte afin qu'il pût nous satisfaire. Les humanistes aimaient le proverbe. Tous les auteurs des miroirs des princes devaient dire qu'un tout jeune aristocrate, tout jeune prince qui veut apprendre à régner, doit apprendre à obéir avant qu'il puisse devenir roi ou quoi qu'il soit. C'est possible que la même maxime valait pour le prince des correcteurs. Un écrivain encore plus brillant que Campano, le pape Pie II lui-même, demande à Campano de corriger ses commentaires autobiographiques. C'est un texte superbe, un panorama magnifique de l'Europe du XVe siècle, truffé d'informations géographiques et d'anecdotes historiques. Le pape dépeignait aux couleurs vives la façon dont il avait préservé sa chasteté contre les assauts de jeunes femmes écossaises avides, et comme il a supprimé un complot des cardinaux qui voulaient empêcher son élection. C'est une confrontation salutaire qui a lieu aux toilettes du Vatican. C'est un texte qui est vraiment le résultat d'un long effort de collaboration. Parfois, c'est le pape qui dicte son texte dans sa chambre, son cubiculum, tandis qu'un de ses secrétaires, Agostino Patrizi, recueille ses propos pour être corrigé plus tard par le pape. Et voici le manuscrit de Patrizi. Parfois, c'est le pape qui écrit. Ce sont les secrétaires qui apportent également leurs corrections et leurs suggestions au texte. Enfin, une première ébauche s'achève, et c'est ce manuscrit-ci qui se trouve actuellement à la Bibliothèque du Vatican. En hiver 1464, Pie remit le manuscrit à Campano, qui doit le corriger. Le pape va jusqu'à interdire la circulation des commentaires avant qu'ils aient été émendés par le correcteur. Campano supervise la création d'une deuxième version des premiers 12 livres des commentaires. C'est un manuscrit énorme, superbe, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque Corsiniana à Rome et qui a subi une correction supplémentaire à son tour. À la fin de cette deuxième version du texte, Campano insère une censure ou un rapport sur les commentaires, dans lequel il affirme que Pie lui a donné le pouvoir de supprimer tout superflu, tout qui semblait incorrect ou fausse, et d'expliquer tout ce qui a été dit obscurement. S'exprimant avec une habileté impressionnante, Campano affirme que le trouvaille de Pie II était tellement élégant qu'il n'a pas eu besoin de mettre une seconde main sur le texte pour améliorer ses qualités. Il l'a laissé intact. C'est la théorie. En fait, comme souligne Concetta Bianca dans une étude approfondie des manuscrits, Campano a changé le texte à plusieurs reprises et il a même fait de plus. 5 fois dans les commentaires, le pape remarque que Campano avait écrit un poème élégant pour célébrer un événement particulier. Par exemple, la découverte des mines d'argent papal à Tolfa, essentielle pour les finances papales à la Renaissance. Les marges du manuscrit du Vatican sont chargées d'annotations dans la main de Campano. et on voit que c'est lui qui a composé et qui a inséré ces poèmes dans le texte du pape. Il semble que Campano ait eu une confiance absolue que le pape et ses héritiers accepteraient ces ajouts dans le cadre d'une correction systématique des commentaires. Évidemment, aux années 50 et 60 du XVe siècle, les termes correction et correcteur embrassaient non seulement la réécriture d'un texte, la réécriture assez systématique, mais aussi l'insertion de suppléments textuels. Évidemment aussi, il y avait des auteurs et des correcteurs qui partageaient une vision quasi collaborative de la création littéraire. Même lorsque l'auteur en question était doué d'une grande autorité philologique et politique. Selon Michele Ferno, c'était la réputation de Campano en tant que correcteur de textes latins manuscrits qui lui a gagné par la suite son emploi dans l'imprimerie. C'est pourquoi il semblait qu'aucun imprimeur en Italie à l'époque n'a voulu entreprendre une publication à laquelle manquait une de ses lettres liminaires pour éclairer son chemin. Aussi, quand Ulrich le Gaulois introduisait l'imprimerie à Rome, il faisait un grand effort pour obtenir les services de Campano. On voit donc que les origines de la correction des épreuves, de la toilette du manuscrit dans l'atelier de l'imprimeur, sont déjà là dans le monde des livres manuscrits. Mais, à l'âge de la reproduction mécanique, comme nous avons lu la semaine dernière, la plupart des correcteurs ne sont plus des humanistes au grand style, comme Cardano, qui devient par la suite évêque. Ce sont plutôt des petits gens, des pauvres diables de la littérature, des Bartleby de Melville ou des types basaciens. Quand même, quelques-uns faisaient de leur mieux pour améliorer les textes qui leur étaient confiés. Il y avait des vrais lecteurs parmi ces correcteurs. Au milieu du XVIIe siècle, le moraliste espagnol Juan de Caramuel pose la question si des censeurs et des correcteurs devraient se préoccuper du style des textes qu'ils examinent. Sa conclusion générale est positive. Ce faisant, ils suivront l'exemple des meilleurs imprimeurs. Est-ce qu'un censeur doit corriger les erreurs de style, telles des solécismes et des quantités fausses? L'imprimeur Balthazar Moritus de la maison de Plantin en Anvers, un homme de la vraie culture humaniste, refusait en principe d'imprimer un texte qui contenait des erreurs de ce genre, car il pensait que s'il autorisait la production d'un non-sens par la plume d'un orateur ou d'un poète, il pourrait nuire à la réputation de sa maison. Caramuel n'exagérait pas. C'est même possible qu'il ait vu des documents qui exprimaient, formulaient la politique littéraire de la maison Plantin. En 1598, par exemple, Moritus promet de publier une édition du poète romain Stas par Jean Bernertz. Mais quand il reçoit le manuscrit brut de son auteur, le manuscrit des commentaires et le relit, il trouve des bévues sur chaque page. Balthazar confie à son ami et son auteur favori, Justus Lipsius, qu'il a dû corriger lui-même toutes les citations grecques de Bernertz. Ses correcteurs ne pouvaient pas comprendre le texte latin des commentaires. Le pire de tout, c'était que le latin du titre même proposé par Bernertz était fautif. Dans le titre de son livre, il fait en quelque sorte que le pronom « quibus » au pluriel renvoie au livre de Sylvae, aussi au pluriel, plutôt qu'à son « commentarius » qui est singulier et auquel le pronom aurait dû viser. J'ai aucune envie d'écrire directement à lui au sujet des questions de ce genre. Il pourrait soupçonner que je propose de le critiquer d'une manière irrespectueuse. Rien ne pouvait être plus éloigné de mon esprit. Je ne m'intéresse qu'à son honneur et à celle de l'imprimerie. Le pauvre Balthazar, c'est un correcteur, c'est un homme très modeste, se trouve obligé de corriger le latin d'un humaniste qu'il respecte et dont le statut social est bien plus élevé que le sien. Il n'a pas esquivé le corvée. Lorsque le commentaire apparaît, le mot quibus a été éliminé du titre et le latin du titre et des commentaires est correct. Derrière la modestie et politesse d'un Moritus se cachait le spectre d'éditeurs et de correcteurs plus sévères. Quand André Véchel imprime une histoire par Leonard Gorecius, il renonce publiquement dans sa préface à toute responsabilité pour le latin de son auteur. L'orthographe variée et l'inflexion de certains noms propres, notamment les étrangers, sont la faute de Gorecius, pas la nôtre. C'est lui qui a pris décision d'utiliser des verbes déponents comme des passifs et des verbes actifs comme des déponents, de transposer des clauses relatives, d'employer des nominatifs et des accusatifs absolus au lieu des ablatifs et d'utiliser d'autres formes étranges de la syntaxe. On peut s'imaginer les sentiments de l'auteur quand il feuilletait le premier exemplaire de son livre et quand il lisait ce texte de présentation un peu insolite pour la première fois. Il y avait certains genres littéraires, semble-t-il, dans lesquels des interventions aussi radicales faisaient partie des pratiques normales des correcteurs. Par exemple, la correspondance latine. En 1625, Daniel Heinsius prépare une édition de la correspondance latine de Joseph Juste Scaliger, le grand philologue français qui était mort à Leyde aux Pays-Bas en 1609. Comme de nombreuses éditions semblables à l'époque, cette collection devait servir de monument textuel à une grande figure de la République de lettres. En 1610, Isaac Casaubon avait imprimé nombre de lettres de Scaliger dans son édition des Opuscula de son ami. Maintenant, des chercheurs, des savants à travers l'Europe envoyaient à Heinsius toutes les lettres de Scaliger qu'il possédait. L'écriture de Scaliger était, comme vous voyez, très lisible. Voici un autographe de Scaliger. Il disait d'un manuscrit de Petron qu'il avait écrit lui-même, « Je l'aime mieux qu'un imprimé. » Et c'est vrai, c'est une écriture superbe. Mon maître Momigliano disait toujours, « Un grand homme qui avait une écriture lisible, c'est deux fois un grand homme. » Quand même, Heinsius a dû travailler sur les textes, comme l'ont montré Paul Botley et Dirk van Meert, qui ont préparé l'édition critique de la correspondance de Scaliger, qui va sortir en deux mois aux presses de la librairie Droit de Genève. Et il y aura une édition PDF à très bon marché. C'est une édition en 8 volumes des 1500 lettres de Scaliger. En comparant les épistolaires publiées par Heinsius au manuscrit, ils ont établi que Heinsius avait fait son travail de façon assez drastique. Scaliger écrivait le latin couramment, sans se soucier du maintien de la concordance des temps ou du placement des verbes à la fin des phrases. Et donc, Heinsius a dû régulariser et corriger sa prose. Et vous pouvez suivre ici, par exemple, le mouvement des verbes à la fin de la phrase, comme ça. C'est une toilette assez systématique. Mais Heinsius a dû aussi effectuer d'autres tâches qui étaient encore plus délicates. Scaliger avait été indiscrète, très indiscrète, en tant que causeur à l'université. Raphaelengius le Jeune décrit ses habitudes dans une lettre à Lips, ce qu'il appelle des scélérats, des ânes, des bêtes et des ignorants aujourd'hui, seront des grands chercheurs et des savants érudits demain. Les lettres de Scaliger adaptaient le même style. Il fourmille de remarques désobligeantes au sujet de ses amis et ses collègues, sans parler de ses ennemis, comme le jésuite Martin Del Rio, que Scaliger désigne « stercus diaboli », l'orgure du diable. La réplique de Diderieux est brillante. Ah, le diable n'exprète pas. Ainsius excise les termes qu'il trouve trop négatifs, du moins ceux qui ne s'appliquent pas aux jésuites, et parfois il effectue son travail de façon tellement discrète que personne ne l'aurait pu remarquer. Dans une lettre de 1599 au pensionnaire d'Hollande, Jean van Oldenbarnevelt, Scaliger se plaint qu'il lui faut payer une cotisation d'impôts particulièrement élevée. Il décrit cette situation pénible comme le résultat pas d'un décret des États d'Hollande, mais plutôt d'une conspiration des professeurs qui voudraient bien abaisser le paiement et agrandir les miens. Ah, c'est, oui, c'est ça. C'est la conspiration des professeurs. Ainsius enlève le seul mot « professeur ». Voilà. Et voilà, ce n'est pas un décret des États d'Hollande, mais une conspiration de ceux qui voudraient que je agrandir mes paiements et abaisser le sien. La phrase de Scaliger, ainsi émendée avec un mot nouveau, reste correct du point de vue de la grammaire et syntaxe, mais l'injure dirigée à ses collègues disparaît totalement, et avec elle, le scandale potentiel. Dans plusieurs lettres, Scaliger se plaint également des blessures que certains collègues avaient infligées à ses livres, soit en les publiant en de nouvelles éditions avec leurs propres commentaires, soit en critiquant ses corrections textuelles. En 1590, par exemple, Franciscus Junius aurait déshonoré l'édition de Scaliger de Manille en y ajoutant son propre commentaire, dans lequel il proposait de corriger quelques erreurs de Scaliger. Scaliger dénonce le commentaire de Junius, qu'il appelle Stelio, c'est-à-dire Triton. Mais et dans les phrases que Scaliger dédie à cet épisode et en d'autres cas, Ainsius remplace les titres des livres qu'il mentionne avec des astérisques discrets que vous voyez là. Les lecteurs ne devraient pas voir que le grand savant avait traité ses collègues comme autant de cibles pour ses flèches verbales. Malheureusement, le contexte rend la plupart de ses références parfaitement transparente. Tous les acheteurs s'amusaient en remplissant les noms manquants, comme vous voyez, surtout après que Paul Colomiers avait publié une clé aux lettres de Scaliger en 1669. Le grand philologue anglais Richard Bentley, par exemple, les a inscrits tous ces noms dans son exemplaire qui se trouve à la British Library. Quelques-uns des lecteurs de l'édition de Ainsius critiquaient ses méthodes assez amèrement. Gerardus Johannes Vossius, le fils-frère de Junius, se plaint à l'exécuteur testamentaire littéraire de Scaliger, Franciscus Gomarus, que Scaliger calomniait un grand savant, comme tout lecteur pouvait voir. Ils ont fait droit, ils ont mérité des éloges quand ils mirent une astérique à la place de Junius, mais il aurait été mieux d'omettre tout simplement ces phrases entières. Nombre de lecteurs comprendront ce qui est dit en faisant attention à ce qui précède et ce qui suit ces passages. En particulier, ceux qui vivaient à l'époque de Junius et de Scaliger comprendront immédiatement. Vossius répète ses arguments en 1628 et il fait de son mieux pour trouver des collègues qui ajouteront leur critique de l'addition à l'océenne. En hiver 1630, par exemple, c'est un cas superbe de schadenfreude. Vossius avertit un ancien collègue, Johannes Mersius, de la façon amère et immorale dont Scaliger avait écrit de lui dans quelques-unes de ses lettres. Dans ce cas, il avoue, les éditeurs ont fait leur travail plus efficacement que dans celui de son fils-frère. Ils ont remplacé votre nom avec une astérisque, de sorte que très peu de gens, à l'exception des membres du cercle intime de Scaliger, comprendront qu'ils se réfèrent à vous. Quand même, insiste-t-il, il aurait dû éliminer le passage. Dans le cas des lettres de Scaliger, le travail éditorial n'a pas été aussi adroit comme il aurait pu être. Mais la morale de cette petite histoire semble avoir été claire quand même à la plupart des citoyens de la République des Lettres. Heinsius avait adopté la méthode correcte. Il l'avait mal appliquée, mais la méthode était la juste. Il y avait pas mal de précédents que Heinsius aurait pu imiter. À la fin du XVe siècle, Aldo Manuzio expurgeait délibérément les lettres d'Ange Policien quand il les imprimait. Le correcteur qui faisait la toilette des lettres de l'érudit magicien et faussaire Jean Trithem, qui était sous presse à Haguenau en 1536, semble avoir conservé les textes dans leur état original. Mais il a corrigé les salutations qui se trouvaient au commencement et au fin des lettres dans le manuscrit original, selon lesquelles Trithème aurait reçu des lettres, c'est vraiment superbe, des lettres du gymnosophiste de l'université de Cologne. Ces salutations me portent à croire, comme ils ont probablement aussi suggéré à ce correcteur, que la correspondance de Trithème, comme pas mal de ses autres écrits, était en partie ou peut-être entièrement frauduleuse, que ce gymnosophiste n'existait pas. Lorsque la première édition de la correspondance d'Isaac Casaubon fut publiée quelques années plus tard, l'éditeur prenait soin de retirer tous les passages potentiellement offensifs. Même des humanistes qui imprimaient leurs propres lettres lors de leur vie faisaient de même. Quand Erasme publia un choix de ses lettres en 1521, par exemple, il avoue que quand il retrouve des lettres qui sont intempérantes, il les a soit omises, soit adoucies. En outre, il omet les titres honorifiques extravagants qui se trouvent parfois dans les lettres. À son avis, il viole les règles du bon latin et ennuie le lecteur. Les lettres, comme Erasme lui-même avait fait valoir dans son traité sur l'Ars Epistolica, appartenaient à un genre littéraire distinctif. En théorie, une lettre devait dépeindre, de façon naïve et véridique à la fois, l'âme et l'esprit de celui qui écrit. En pratique, les humanistes aimaient copier et mettre en circulation des lettres de leurs amis prominents et pas mal d'érudits rassembler et publier leur correspondance. Si la lettre était vraiment destinée à la circulation publique, elle devait représenter l'âme et l'esprit de l'écrivain, non comme ils étaient, mais comme ils devraient être. Comme les jeunes filles qui fréquentaient l'école avec Jane Eyre, l'humaniste écrivain devait être l'enfant non pas de la nature, mais de la grâce. Donc, il semble probable que la plupart des humanistes, dont les lettres ont été éditées après leur mort, auraient préféré toucher le grand public plus ou moins comme ils l'ont fait, plutôt que de devenir l'objet d'une philologie scrupuleuse qui aurait dépeint toutes leurs verrues littéraires. Parfois, des correcteurs intervenaient dans un texte de manière encore plus énergique, voire radicale. En 1543, l'imprimeur Johannes Petreius de Nuremberg sort la première édition d'un ouvrage vraiment révolutionnaire, le De Revolutionibus Orbium Celestium de Copernic. L'auteur habitait loin de Nuremberg et devenait gravement malade pendant que le livre était sous presse. Il mourut avant que le livre pouvait apparaître. Il trouve en Georg Joachim Reticus, un collaborateur expert qui assiste à la toilette du manuscrit et l'apporte à l'imprimeur. Mais quand Reticus reçoit une offre de poste à Leipzig, il doit quitter Nuremberg et confier la relecture de ses épreuves de Copernic à un autre correcteur, un théologien ami de Petreius, Andreas Osiander, qui travaillait pour Petreius en tant que conseiller et correcteur. Au XIXe siècle, quand le manuscrit autographe de Copernic a été redécouvert, les philologues remarquaient que l'édition Petreius dévia du texte manuscrit dans de nombreux détails. Et dans les premières éditions modernes, ils essayaient de reconstituer le texte original d'après le manuscrit. Il y a des erreurs évidentes. Si on lit l'édition imprimée, on a l'impression que la sphère plus grande, la sphère des étoiles fixes, serait d'une grandeur infinie. En fait, les sphères ont été mal étiquetées par le compositeur et Osiander n'a rien fait. Si on examine le diagramme dans le manuscrit, on voit immédiatement que la sphère des étoiles fixes de Copernic était la sphère traditionnelle, bornée comme toutes les autres. Donc, c'était nécessaire de rentrer au manuscrit pour trouver des leçons supérieures à celles de l'imprimé. Quand même, les érudits n'ont pas remarqué quelque chose de plus fondamental. La plupart de ces changements étaient en fait des améliorations techniques du texte. C'est relativement facile d'établir la qualité de variantes textuelles quand il s'agit d'un travail quantitatif. Si l'on tient compte des corrections effectuées avec un stylo dans certains exemplaires du texte et la liste d'errata, on voit qu'Osiander a vraiment travaillé le texte pendant qu'il était sous presse. Et dans le titre de liste d'errata, il dit très franchement qu'il a relu le texte et qu'il a comparé le texte au manuscrit orthographe et l'a corrigé. Donc, le processus de correction des épreuves était aussi un processus de correction du texte. Et c'est Osiander à l'admettre très franchement. Mais il va plus loin. Il ajoute au texte des paratextes qui deviennent célèbres et qui le changent de façon assez radicale. Il renomme le texte en De Revolutionibus, mais la chose principale qu'il ajoute, c'est une préface anonyme de son cru qui fait du système héliocentrique de Copernic une simple hypothèse mathématique. Copernic croit avoir découvert le vrai système de l'univers. Il regarde son livre comme un défi direct et radical à la structure de la philosophie naturelle aristotélicienne ainsi qu'à l'astronomie ptolémaïque. Ce fut une proposition dangereuse. Osiander essayait d'édulcorer le radicalisme de l'ouvrage en affirmant en propre personne, que Copernic aurait présenté sa théorie non comme la vérité, mais seulement comme une hypothèse avec laquelle il espérait stimuler la dispute. De 1543 à l'heure actuelle, les manœuvres d'Osiander et de Petreius ont mis en fureur les admirateurs de Copernic. À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, Willibrord Snellius, Johann Kepler et d'autres essayaient de retracer la façon dont la préface a été ajoutée au texte. Et vous voyez là l'annotation manuscrite de Snellius où il identifie Osiander comme l'auteur de la préface. Sans doute, il avait raison d'affirmer qu'Osiander avait pris sa décision contre les intentions manifestes de Copernic. Et Reticus en a été informé trop tard pour pouvoir s'y opposer, quoiqu'un autre copernicien, Tiedemann Giese, aille jusqu'à demander au conseil municipal de Nuremberg d'intervenir, le texte atteint le public dans la forme que Osiander a choisie. Pourtant, la décision d'Osiander a tout probablement sauvé le livre de Copernic. Le De Revolutionibus commençait à attirer de vives critiques dès qu'il apparaît. Le dominicain Bartolomeo Spina, qui est le magister sacri palatii, c'est-à-dire le théologien papal, voulait interdire le livre, quoique sa propre mort en 1546 l'ait empêché de le faire. Le texte devenait plus tard le but de quelques critiques sévères, mais il n'est jamais devenu l'objet d'une vraie campagne de répression, sauf dans une certaine mesure dans la péninsule ibérique. Comme Owen Gingerich a montré, par l'expédient, aussi simple que radical, d'examiner tous les dizaines d'exemplaires qui se trouvent aux bibliothèques du monde, le livre a été non seulement distribué, mais aussi lu, attiré l'attention des lecteurs très, très sérieux qui remplissaient les marges de leurs exemplaires d'annotations et faisaient du travail de Copernic un texte canonique de l'astronomie, même avant la fin du XVIe siècle. Le génie de Copernic était sorti de la bouteille grâce à Osiander et aucun acte de répression imaginable aurait pu le remettre. Bien que les scientifiques du XVIe et XVIIe siècle et les historiens du XXe aient rarement fait l'éloge d'Osiander, il me semble qu'il a joué le rôle de correcteur avec ingéniosité. Même dans des domaines plus littéraires que l'astronomie, quelques-uns des grands auteurs de la Renaissance sont entrés dans une sorte de collaboration très étroite avec les correcteurs. L'humaniste Ange Pélicien et le peintre et historien de l'art Giorgio Vasari nous donnent deux cas, chacun à sa façon. Pélicien, le philologue le plus brillant du siècle XVe, se consacre passionnément à exposer toutes les erreurs. C'est un peu à l'esprit de Pierre Bayle qui voulait faire un dictionnaire des erreurs, mais qui faisait quelque chose de plus intéressant. À partir des erreurs des savants contemporains et des scribes médiévaux, à celles beaucoup plus controversées des auteurs anciens. L'accusation d'erreur était toujours délicate. Le médecin ferrarois Niccolò Leonageno déclenche une guerre avec Pélicien et d'autres quand il accuse Pline l'Ancien d'avoir commis des erreurs dans son histoire naturelle. Dans pas mal des chapitres les plus originaux de ces Michelinéa, qui apparaissent en 1489, Pélicien adapte une rhétorique féroce contre ce qu'il appelle la semi-docta seduditas. Il ne châtie aucune classe de délinquants plus souvent ou plus férocement que les premiers correcteurs qui s'occupent des textes classiques, Giovanni Andrea Bussi et les autres. Selon Pélicien, leur édition, qui se base sur des manuscrits choisis apparemment au hasard et dont les textes sont modifiés sans qu'un appareil textuel justifie les corrections du texte transmis, avait fait plus de corrompre que de stabiliser les textes latins et grecs. En 1488, quand Pélicien sort ses Michelinéa, il se trouve lui-même aux prises avec les correcteurs de l'imprimerie et leurs pratiques. Avec une ironie qui est caractéristique de lui, il compose un colophon qui assure le lecteur de la qualité de la copie que l'imprimeur avait utilisée. C'est l'archétypus, donc le texte que Pélicien lui-même a préparé pour l'impression. Mais puis, il va jusqu'à nier que l'auteur lui-même ait relu le texte ou les épreuves. Antonio Miscomini a imprimé la copie officielle de l'auteur. Certains collaborateurs, certains amis de Pélicien ont corrigé les épreuves. Pélicien lui-même dit qu'il ne prend aucune responsabilité pour la autographie, qu'on hache, ou pour d'autres défauts qui ne sont pas sa responsabilité. Donc, Pélicien profite de l'existence de l'imprimerie pour trouver des lecteurs à travers l'Italie. Et il explique plus tard que des jeunes humanistes avaient saisi et lu chaque cahier du texte comme il sortait des presses de Miscomini sans entendre les faire relier dans un livre complet. En même temps, cependant, il demande, si j'ose le dire, un grand bol d'eau et un grand bar de savon pour se laver les mains des résultats de l'impression de son livre. De toute évidence, il savait que ces polémiques provoqueraient des contre-attaques et espérait en quelque sorte à se protéger contre elles, donnant la faute pour ses erreurs à ses amis et collaborateurs. En fait, Politien ne doit constater qu'il a provoqué non seulement des attaques de la part de ses ennemis, des cibles de ses polémiques, mais aussi des critiques assez constructives de la part de ses amis et correspondants érudits. Peu à peu, il se rend compte qu'il n'avait pas seulement exposé les erreurs d'autres philologues, mais aussi fait de nouvelles de son propre. Il se trouve obligé de répondre à ses lettres et autant que possible de relire et corriger son texte. Les erreurs et les passages problématiques ou faibles du texte original se divisent selon lui en trois catégories. Certains, comme il explique dans une lettre à l'évêque Leonello Chericati, avaient été purement mécaniques. Chericati fait remarquer à Politien qu'il a eu tort de citer Clément de Rome plutôt que Clément d'Alexandrie comme l'auteur des Stromates. Politien admet l'erreur, mais tente de déplacer le blâme. En ce qui concerne Clément, cette erreur appartient à l'ouvrier, au compositeur, pas l'auteur. Il a rencontré certaines choses dans ma copie qui étaient, comme il arrive souvent, inscrites à tort dans le texte ou qui étaient ce qui avait été supprimé, et il les prenait pour bonnes et authentiques et les imprimait sans réfléchir. Donc, les erreurs de la copie de Politien étaient aussi elles-mêmes la responsabilité du pauvre compositeur et des correcteurs. À cause des erreurs mécaniques de ce type, Politien explique, il a dû imprimer toutes ces erreurs, sauf ce que j'ai raté, comme je suis allé au cours de travailler, sur les premières pages. C'est-à-dire, il a dû faire une liste des errata qu'il a mis au commencement du livre. Sous cette liste, il avait déjà corrigé la fausse inscription des Stromates. Peut-être, Politien spécule, Leonel n'avait pas encore rencontré les pages d'errata quand il a trouvé quelque chose à redire au passage en question. Quoi que ce soit, Leonel n'a pas dû compiler des références érudites aux travaux d'Eusèbe et de Jérôme afin de corriger cette erreur assez modeste. Politien avait lu lui-même et fait des extraits de tous les 8 livres de Clément d'Alexandrie. Donc, le ton étonnamment sévère adopté par Politien dans cette lettre à son ami caractérise la plupart de ses réponses à ses détracteurs. À la fin de la liste des errata, il essaie de montrer qu'il n'aurait pas pu être blâmé pour les erreurs qu'il avait découvertes dans son texte. Lecteur, si vous trouvez, en plus de ces erreurs, d'autres qui sont échappées à notre vue, voyez-les corriger de la façon que vous jugez bon. Et ne pensez pas que toutes les erreurs appartiennent à moi. Il faut plutôt les attribuer soit au compositeur, soit à ceux auxquels est confiée la tâche de correction, au correcteur. Car si vous croyez que j'ai fait même une de ces erreurs, alors je vais croire que vous soyez sans compréhension. Politien fait de son mieux pour veiller à ce que les corrections soient introduites dans le plus grand nombre possible des exemplaires. Jacopo Gherardi, nonce du pape à Florence et à Milan, lui informe qu'il a corrigé par ma main et à votre direction environ 70 copies exemplaires de vos miscellanea. Les scribes de Leonardo Sforza, le duc de Milan et plusieurs autres chercheurs avaient corrigé leurs exemplaires en la présence de Gherardi. Dans une certaine mesure, puis, Politien a simplement continué à suivre la stratégie qui avait animé son colophon et ses errata. Il insiste qu'il n'a pas pu contrôler le processus de l'impression, même lorsque, comme dans le cas de Clément, ses arguments excèdent les limites du probable. Mais les erreurs que les lecteurs ont portées à l'attention du Politien varient dans leur nature. Quelques-unes n'étaient pas tout simplement mécaniques. Battista Guarini, fils du grand humaniste Guarino de Vérone, critique le maître de plusieurs lignes de la traduction latine de Callimaque que Politien imprimait dans le chapitre 80 des Miscellanea. Bien que Politien se défende avec son énergie habituelle, il propose également des changements qui sont évidemment motivés par la critique de Guarino. Il va jusqu'à dire que j'ai immédiatement demandé à tous mes amis que je pouvais contacter à corriger ces versets. Évidemment, même selon Paulicien, l'édition première des Michelinia aurait contenu des erreurs véritables. Paulicien allait clairement penser à ceci, car il avait d'autres corrections qui ne figurent pas dans la feuille d'errata. La plus grave de tous, peut-être, ce n'est pas une correction de style, mais quelque chose de plus raffiné et compliqué qui apparaît dans une lettre d'un admirateur de Paulicien, Jacopo Antiquario. Jacopo ne comprend pas pourquoi Paulicien a critiqué l'humaniste romain Domizio Calderini de façon tellement féroce. Il était parmi nous. Il a laissé derrière lui des œuvres qui jouissent d'une réputation décente. Paulicien défend son travail en avouant qu'il n'avait jamais voulu suggérer que Calderini n'avait rien accompli. Mais enfin, il doit admettre que Antiquario a eu raison. Il a maltraité son collègue mort. Malheureusement, on ne peut plus corriger les exemplaires qui sont déjà imprimés. Il me semblait, quand je songeais à ces choses, que mon cours était correct. Maintenant, j'ai changé mon point de vue, tout à fait librement et facilement, puisque vous êtes en désaccord. Je vais faire le nécessaire afin que plusieurs autres changements soient insérés à la main, en autant d'exemplaires que possible. Mais pour le changement de style qu'exige Antiquario, c'est trop tard. Nescit vox missa reverti, comme dit le poète Juvenal. Et Antiquario aussi a souligné le problème, que c'est impossible corriger un livre qui a déjà été imprimé et publié. En théorie, après avoir suivi la réception de son livre, Paulicien accepte maintenant la possibilité qu'il aurait eu besoin, lui aussi, de l'aide d'un correcteur. Un correcteur qui lui aurait pu donner des conseils de style, des conseils de ton que lui manquaient. Ce chercheur passionné de la vérité absolue, cet ennemi féroce des correcteurs, prend conscience de la nécessité de la correction littéraire et en plus de la collaboration dans ce domaine. Comme Paulicien, Giorgio Vasari n'a pas pu superviser la publication de la première édition de son Histoire d'art, de l'art qui a été publié par Torrentino à Florence en 1550. Lors de l'impression de son livre, Vasari est à Rome en poursuivant sa vocation de peintre. Heureusement, il pouvait bénéficier des conseils et des services professionnels d'au moins 4 correcteurs expérimentés, Pier Francesco Giambullari, Carlo Lenzoni, Cosimo Bartoli, et surtout le bénédictin érudit Vincenzo Borghini. Ils ont fait la toilette du manuscrit de la première version des vies des peintres et en ont relu les épreuves. Et ils ont fait de plus. C'est Borghini qui a élaboré les index et qui a suggéré à l'auteur des ajouts importants, même à la première version du texte. Vasari, pour sa part, apprécie profondément les conseils de Borghini. Quand il compose un épilogue pour la première édition, il l'envoie à son ami en lui demandant de réviser et améliorer le texte. Il doit couper ce qui est superflu, ajouter ce qui manque, à la manière immémoriale de l'auteur inexpérimenté qui s'appuie absolument sur l'expertise de son correcteur. Borghini était, on le sait, un savant, esthéticien, expert de la langue toscane et son histoire. Comme la plupart des humanistes, il n'avait pas une grande opinion des artistes. Il pensait, par exemple, que Benvenuto Cellini était devenu déséquilibré quand il commençait à passer son temps à écrire comme un fou au lieu de faire de ses sculptures. Mais comme plusieurs chercheurs ont montré, de Robert Williams il y a 20 ans jusqu'à Marco Ruffini l'année dernière, Borghini était aussi un correcteur professionnel de l'imprimerie et un correcteur très habile. Ses lettres révèlent une forte implication avec le commerce du livre et les pratiques des ateliers de l'imprimerie. Aux années 40 du 15e siècle, il dessine un présat pour les pages de titre de Torrentino. Il collabora avec Aldo Manuzio le Jeune pour émander une biographie latine de Cosme de Médicis. Il écrit une lettre préface en très bon latin pour l'édition de Sophocle, publiée par Giunti en 1547, laquelle il a fait en collaboration avec le grand helléniste Pierre Vettori. C'est un homme de patience monastique, c'est parfait pour le travail du correcteur, qui assure Vasari qu'il est prêt à entreprendre n'importe quelle tâche, même celle plus modeste que la préparation des index, qui pourrait promouvoir le progrès du livre. Au cours des 18 années qui séparent la deuxième édition du travail de Vasari, de la première, et voici les pages de titre du deuxième, Borghini entretenait une correspondance constante avec l'artiste. Il insiste fortement sur la nécessité de la précision dans les données, de la clarté dans l'écriture, de l'unité du style. Il fait beaucoup pour donner à la version finale de l'histoire de Vasari son caractère définitif. Le travail du correcteur permet à Borghini de sculpter le classique, qui l'a vu clairement déjà présent sous la surface dans la première version de 1550. En 1556, dans une lettre à Vasari, Borghini utilise une métaphore vive, mais aussi un peu curieuse, pour exprimer la nature de leur relation et pour identifier les rôles distincts qui sont joués par l'auteur et le correcteur. Mais, comme je t'ai dit, nous aurons à mâcher la même baguette. Vous jouerez le rôle des dents supérieures, ou peut-être de la mâchoire supérieure, et moi, je jouerai le rôle des dents inférieures. Donc, c'est bon que c'était Vasari qui était l'auteur et Borghini qui était le correcteur. Il y avait aussi ces moments d'annotation quand il s'agissait du style littéraire. Quand même, on voit que dans ce cas, le travail d'un éditeur, d'un correcteur passionné et habile se montra essentiel à la création d'une œuvre classique de la littérature de la Renaissance. Grâce à sa maîtrise de compétences littéraires, mais aussi des détails de la production des livres, grâce à sa passion pour le détail et sa capacité à voir l'ensemble, Borghini représentait la figure idéale du correcteur de la Renaissance. Et c'est vraiment un lecteur-correcteur au sens moderne, aussi qu'un correcteur au sens du XVIe siècle. La loyauté et la reconnaissance de Vasari ne vacillaient jamais. Il aurait convenu que Borghini fait pour lui tout ce que Maxwell Perkins a fait pour Thomas Wolfe au XXe siècle. Parmi les figures modernes qui se retrouvaient dans les rues et les places de la Renaissance, qui adaptaient des compétences traditionnelles, telles les compétences d'un campano à des fins nouvelles, se trouvait le lecteur-correcteur littéraire, ancêtre en ligne directe de Perkins, de tant d'autres, et aussi de l'auteur anonyme de Mémoire de la Maison des Morts. C'est notre infortune que leurs descendants sont en train de disparaître de nos maisons des morts. Je vous remercie. Ah, voilà. J'ai oublié. Voilà les dents supérieures et inférieures. Oui, s'il y a des questions, des commentaires, des corrections.
Vous avez évoqué le faire un correcteur au sens étroit du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui évite telle ou telle erreur grammaticale, telle ou telle erreur d'assignation autoriale, comme par exemple Clément d'Alexandrie, ou avec Clément de Rome, mais quelqu'un qui quelque sorte, collabore à un état supérieur du texte. D'ailleurs, entre les deux éditions, il y a l'édition, la première édition et la deuxième édition, il y a un progrès considérable.
Ouais.
Et la seconde passe pour cette différente autorité. Alors, comment peut-on décrire le rôle de Borghini dans une telle affaire? Est-ce que ce ne serait pas presque un co-auteur? D'ailleurs, l'idée de la métaphore de la mâchoire suppose que
Vous avez parfaitement raison. Moi, je dirais que ce que Borghini fait pour Vasari, milieu du XVIe siècle, c'est exactement ça que fait Campano pour ses auteurs au XVe siècle. Donc, il y a une tradition de la correction comme collaboration. Il s'agit évidemment des correcteurs les plus cultivés, les plus érudits, tels un Campano ou un Borghini, mais ce sont aussi des professionnels qui travaillent dans l'atelier de l'imprimeur, qui comprennent et connaissent toutes les pratiques de l'imprimerie. Et c'est ça que j'ai voulu souligner, qu'à un extrême, il y a des correcteurs qui ne font que relire les épreuves. Mais à l'autre extrémité, il y a des gens tels Borghini ou Campano qui se mettent à améliorer les textes en donnant leurs conseils aux auteurs, en essayant de faire la toilette du texte avant qu'il ait en circulation. Et comme vous avez dit, le cas de Borghini, c'est probablement un cas limite. Quand le correcteur effectue des recherches archivales, trouve des documents, transcrit des monuments, examine les œuvres d'art, ça, c'est plutôt un correcteur qu'un correcteur. Mais quand même, c'est Vasari dont le nom apparaît sur la page de titre. Et Borghini se dépeint toujours, systématiquement, comme correcteur. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire, qu'il y a ces cas limites aussi à la Renaissance.
Alors, deuxième question, vous avez évoqué le cas de Tom Wolfe et de son correcteur, de son éditeur.
Ouais.
Mais il me semble que nous n'avons pas dans notre tradition ce type de correcteur, alors qu'aux États-Unis, je connais au moins trois exemples. Il y a d'abord le cas des Rapa.
Ouais.
Et dont l'éditeur, lui, a coupé à peu près les deux tiers du texte pour arriver à une sorte de densité telle que maintenant la veuve de l'auteur, qui était beaucoup plus jeune, prétend éditer le texte complet pour... vous voyez, je ne peux plus citer le nom. Mais ce sont des choses qui n'existent pas dans la tradition française.
C'est peut-être Raymond Carver.
Voilà, c'est Carver.
Oui, c'était Gordon Lish qui a abrégé les textes à la manière de Procuste.
Exactement. Et il a fait la gloire de Carver.
Oui, il a inventé un style nouveau, ce style minimaliste qui a été très, très influencé. Bon,
c'est parce que l'Amérique a retrouvé, en quelque sorte, le génie des correcteurs de la Renaissance, ou bien est-ce que c'est une tradition ancienne qui s'est manifestée à trois reprises Carver, c'est aussi un grand écrivain. Quant à Elliot,
le plus grand de nos poètes. Bon, tout me porte à croire que c'est la tradition, mais qui continue aux États-Unis et interrompue ici en Europe pour des raisons que je ne sais, que je ne pourrais pas donner. Aux États-Unis, les éditeurs croient à la théorie de Darwin. Il faut changer quelque chose pour que l'organisme survive. Pardon, à Lamarck. On croit à la théorie de Lamarck. Il faut donner à l'organisme une nouvelle jambe ou des nouvelles mains pour qu'elle puisse survivre et fleurir dans un monde dangereux. Tandis qu'en Europe, les éditeurs croient plutôt à Darwin. Et l'organisme survit ou non, mais ce n'est pas leur responsabilité. On fait les deux, on sort le livre et on voit ce qui arrive. Donc, ce sont deux visions de l'édition qui sont profondément différentes.
Mais le correcteur n'est plus simplement un correcteur, il devient un véritable collaborateur.
Ouais.
Tandis que nous avons justement l'habitude de correcteurs qui savent rester dans l'ombre. J'avais cité d'ailleurs au début le témoignage très intéressant.
Non, c'est juste, mais. Quand même, il y a pas mal de cas aux États-Unis. Même aux presses universitaires, il y a des éditeurs au sens typique qui font de leur mieux pour améliorer les textes des monographies académiques en relisant les manuscrits bruts, en faisant de la toilette, en éliminant des erreurs de style et de contenu aussi, que des erreurs de ponctuation ou d'orthographe. Oui. Au moins trois fois.
Le professionnalisme, oui, c'est. Pour quelqu'un qui n'écrit pas l'anglais, très bien l'anglais comme moi, c'est un secours extraordinaire d'avoir affaire à des lecteurs si patients et qui sont capables de vous suggérer d'être plus correct.
Non, ce sont des gens très, très doués. Par exemple, à New York, où j'ai sorti quelques articles, chaque chose qu'on publie sur le New Yorker est lue par l'éditeur lui-même, M. Remnick, par un autre rédacteur, par un copy editor, par des avocats et par des correcteurs au sens nombre. Donc il y aura au moins 10 ou 12 ou 13 lectures et relectures du même texte. Ce qui veut dire que le texte devient très, très labile. C'est comme M. Chartier dit toujours, ce n'est pas l'auteur qui fait le livre ou l'article, on fait le texte, et ce sont les collaborateurs qui en font l'article qui va être publié.
Mais c'est très américain, c'est pas américain.
Mais pourquoi c'est américain? On veut en faire quelque chose d'excellence. Ça me semble assez européen, cette ambition. C'est ça, c'est ça. Je ne connais qu'une exception européenne, et c'est-à-dire le Journal of the Warburg and Courtauld Institutes.
Mais c'est
pas un journal américain.
Non, non.
Madame, vous avez une question? Pardon.
Et au fil du temps, ils ont complètement disparu.
c'est-à-dire les correcteurs journaux, ont disparu totalement. Et au grand... C'est extraordinaire, ça. Il y a probablement des programmes électroniques qui corrigent les textes. Ça doit être possible, mais il y aura toujours des problèmes si on utilise ces méthodes modernes. Et aux maisons éditrices, aux grandes maisons telles Le Seuil ou Gallimard, est-ce qu'il y a toujours des correcteurs? De moins en moins. Ah bon? J'ai lu quelque part qu'un correcteur français doit faire 10 ou 12 milliers de signes par heure.
Oui, en plus, il y a ça, il y a cette espèce
de... qui me semble assez exigeant. Et ça doit être impossible de lire le texte du commencement jusqu'à la fin avant de corriger. Les...
C'est impossible. Donc il y a effectivement des replâtrages rapides qui ont lieu, mais qui n'ont plus du tout l'envergure de ce que pouvait être encore il y a quelques années, il y a un moment, la place d'un véritable correcteur de l'émission,
elle abaisse. Ah oui. C'est vrai. Malheureusement. Mais quand même, c'est bon que vous soyez là. J'aime bien voir un correcteur ici dans l'auditoire. Monsieur? Bon, il y avait des correcteurs très érudits, très cultivés, qui ont reposé beaucoup de confiance, tel Friedrich Silburg, qui a travaillé pour les Wechsel à Francfort, ou tel Balthasar Moretus, qui était lui-même partenaire à la maison de Plantin. Et il pouvait faire ce qu'il voulait, si j'ose le dire. Silbourg a été tellement érudit, ne voulait pas être professeur, il préférait corriger des textes. Donc il a préparé les éditions critiques pour les presses de Vechel et puis il en a corrigé les épreuves. C'était à la fois éditeur au sens du philologue classique et correcteur au sens de l'atelier de l'imprimerie. Donc, un type de bien comme Silbourg pouvait vraiment faire carrière. Mais les gens plus modestes, et surtout les gens qui échappent au travail du correcteur, c'est très difficile de retracer leur vie. La plupart des correcteurs de la maison Plantin qui échappent sont des prêtres. Qui trouvent des bénéfices et qui peuvent aller à une paroisse, ce qui est évidemment un travail plus intéressant et moins exigeant que le travail de la correction 12 heures au jour, 6 jours à la semaine. Mais c'est vraiment très difficile. Et j'ai trouvé des lettres pitoyables du côté correcteur qui disent à un ami érudit, oh, c'est affreux, on travaille avec 3 ou 4 presses à la fois, c'est trop exigeant, j'ai mal aux oreilles, aux yeux. Mais quand même, je ne veux pas changer de place. Ça va ici, on me paie assez, je reste. Et même quand on reçoit une lettre d'un grand érudit qui dit, mais c'est absurde qu'un homme de votre qualité travaille dans ce métier, je veux vous aider, on reçoit des réponses de style Bartleby. Non, je ne veux pas. J'y suis, j'y reste. Mais ce sont des histoires vraiment pitoyables, les histoires que j'ai pu reconstituer. Ce sont les histoires, on pourrait dire, de style Danton, des pauvres diables, comme ces histoires des compositeurs. D'autres questions? Oui, monsieur.
Qui est soit une espèce de d'ignorance qu'on attribuerait à Marie de Mournay, soit une incompétence, une manque de soins. Et dans notre analyse des correcteurs, il y aurait ce cas particulièrement remarquable de quelqu'un qui estime bien longtemps après la mort de l'auteur qu'il faut corriger, qu'il y a encore du travail à faire,
Oui, Pasquier a écrit une lettre à un ami, Claude Loisel, dans laquelle il dit qu'il y a ce type, le correcteur, qui croit savoir la vraie intention de l'auteur et qui transforme le texte pendant qu'il est sous la presse et on reçoit les pages et on ne le reconnaît plus. Donc, c'est un peu dans cette direction que Mme de Gournay travaillait. Et est-ce que j'ai raison à croire qu'elle n'a pas utilisé l'exemplaire de Bordeaux? Mais pas systématiquement.
Ouais.
Le problème. Le problème, c'est de savoir les intentions de Montaigne, qui me semble très, très difficile, parce que ce plus brillant des écrivains autobiographiques se cache toujours derrière ces révélations. C'est Montaigne qui ne sait pas les jours natals de ses filles, mais à la Bibliothèque nationale, on a son petit journal où il a noté très soigneusement les jours natals de ses enfants. Donc, il s'agit de la façon à laquelle il se dépeint plutôt que des faits. Donc, c'est très difficile à savoir ce que Montaigne a voulu faire. Il y a un très bon article de George Hoffman sur Montaigne et la correction des épreuves. Il a trouvé des choses assez intéressantes et essayé de montrer que Montaigne pratiquait plus qu'il ne dit les ateliers de l'imprimerie et s'intéressait à leur pratique. Mais c'est tout qu'on peut établir, selon mes connaissances, qui sont très, très bornées dans ce domaine. Mais c'est un cas. Il y a plusieurs cas semblables. Donc, des gens qui ont fait des éditions soi-disant définitives après la mort de l'auteur. On pourrait penser à notre ami Heinsius, qui a édité ses lettres de Scaliger. La plupart des lettres qu'il a utilisées ont disparu totalement. On sait qu'il a remanié et corrigé les textes, qu'il les a voulu faire plus classiques, plus corrects, mais c'est impossible de reconstituer les textes originaux. Donc, mais là, j'ai l'impression que Scaliger lui aurait donné raison. Pourquoi pas mettre le verbe à la fin de la phrase? Enfin, ce n'était pas une question de style, c'était seulement que Scaliger écrivait son latin tellement, avec une telle rapidité qu'il faisait des erreurs de grammaire et de syntaxe élémentaire. D'autres questions, remarques? Donc, s'il y en a.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Merci. Merci à tous.